Alors, autre, comment dirais-je, analyse de la communication, et c'est bien que vous soyez là, Marie-Virginie Klein, Poutine, avec la fameuse déclaration de mercredi, où il termine, c'est-à-dire qu'il y a la fameuse phrase où il dit « nous emploierons les armes nécessaires si la Russie est attaquée », et à la fin, il termine par, il y a un petit silence, et il dit « et un bluff, ce n'est pas du bluff ». Est-ce que, alors, on en parlait ce matin avec les grandes voix, Gérard Carrérou disait, c'est justement quand on dit c'est pas du bluff que ça en est. Quelle est votre opinion là-dessus?
Alors c'est un sujet super compliqué. Honnêtement, celui-là est très compliqué. Quand on regarde un peu les images, d'abord, la dernière fois qu'il a fait ce type de déclaration, c'était il y a 7 mois, vraiment au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Et rappelons-nous, cette affaire devait être pliée en 48 heures et c'était pas un sujet. Donc d'un point de vue visuel, c'est les mêmes images. Il est habillé de la même façon, c'est les mêmes drapeaux, le même cadrage, tout est similaire.
Les téléphones derrière des années 80.
Exactement. Ouais. Donc rien n'a changé. En revanche, tout a changé dans son attitude. C'est-à-dire qu'il y a 7 mois, on avait un Vladimir Poutine très sûr de lui et voilà. Et là, effectivement, on sent beaucoup de fébrilité. Et effectivement, quand on dit c'est pas du bluff, et c'est la meilleure façon de faire comprendre à l'autre que c'est un aveu, c'est déjà un aveu de faiblesse de le dire. Après, la psychologie de Poutine, à mon avis, elle est complexe. Personne n'est dans sa tête pour savoir ce qu'il veut réellement faire. Et une des raisons...
Tout le monde aimerait être dans sa tête, justement.
Et tout le monde, en tout cas, aimerait savoir ce qu'il y a dans sa tête. Et une des raisons pour laquelle il a dit « c'est pas du bluff », c'est qu'il se sent dans les commentaires là qu'on lit partout dans les médias, y compris là très récemment, c'est qu'on le prend plus au sérieux. On le prend plus au sérieux. Et une personnalité comme ça, quand elle se sent perdante, quand elle se sent juste acculée, elle est capable de faire beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que moi je serais assez prudente, parce que moi j'entends sur les radios ici dire il dit que c'est pas du bluff, mais justement c'est du bluff. L'armée russe recule sur tous les territoires. L'opinion est plus complètement de son côté, même en Ukraine. Il y a plein de faiblesses. Et justement des personnalités comme ça, c'est comme ça que sont nées les grandes guerres.
William T.
Moi je pense que Vladimir Poutine est dans une situation compliquée dans la mesure où il est prisonnier. Il est prisonnier sur le plan extérieur, il est prisonnier sur le plan intérieur. Avant la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine était à environ entre 45 et 55% de cote de popularité, et il est passé au moment du déclenchement de la guerre aux alentours de 85-90%. Donc il était soutenu par son opinion publique, et il y avait un mouvement en Russie qui le soutenait. Là, on voit que depuis 2-3 semaines, il est en difficulté dans la mesure où les Ukrainiens ont réussi ce qu'on appelle leur contre-attaque. Ils ont à peu près réussi à reprendre une partie du territoire, à avoir un équilibre des forces et la situation se fige. Et maintenant, qu'est-ce que doit faire Vladimir Poutine? C'est-à-dire qu'en fait, il a le choix. Soit il continue la guerre, mais c'est-à-dire qu'il doit intensifier son effort et demander des sacrifices à la population russe, qui n'était pas forcément le cas au début, parce qu'on parlait d'opérations spéciales et pas de mobilisation générale, et là, il invoque la mobilisation partielle, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on doit comprendre, mais la difficulté, c'est qu'on a moins d'informations qu'avant, c'est quel est le rapport de force au sein de son administration entre, du côté un, les militaires, et de l'autre côté, les civils. Est-ce que des personnes souhaitent remplacer ou en tout cas mener un front anti-Poutine, ça on ne sait pas. On peut faire toutes les suppositions possibles, mais comme on n'a plus d'ambassadeur là-bas et qu'on a coupé les liens, eh ben on a moins en moins d'informations sur ce qui se passe là-bas. Mais en tout cas, il ne faut pas exclure cette possibilité.
Même avec les ambassades, on n'avait pas beaucoup.
On n'avait pas beaucoup, mais au moins
on
en avait quelques-unes. Et comme on ne connaît pas le rapport de force, c'est difficile de porter une analyse. Et après, dernier point, c'est la question qui est extérieure. En fait, c'est Vladimir Poutine, lorsqu'il avait fait une conférence de presse commune avec Emmanuel Macron en février dernier, avait posé la question suivante. Est-ce que les Français et les Britanniques veulent faire la guerre à la Russie? Et moi, je me rappelle d'en avoir échangé avec vous, j'avais posé la question inverse. Est-ce que les Russes veulent la guerre avec les Britanniques, les Américains, les Français et les Allemands? Et Vladimir Poutine ne tient dans ce conflit dans la mesure où il faudrait en fait que l'aide occidentale s'arrête. Mais si par cas l'aide occidentale ne s'arrête pas, il faut un moyen de pression pour qu'elle s'arrête. Et quel est le meilleur moyen de pression? C'est l'arme nucléaire.
Bien sûr.
Est-ce qu'il va exclure l'utilisation de l'arme nucléaire? Moi, je me rappelle dimanche avant le début du conflit, j'avais dit que Poutine vraisemblablement n'attaquerait pas, mais il avait des raisons d'attaquer. Là, je pense que vraisemblablement, il n'utilisera pas de grandes armes nucléaires contre des capitales européennes. Par contre, j'exclus pas l'utilisation d'une bombe tactique, notamment à des fins militaires, pour gagner et pour sécuriser la zone entre Kiev et le Donbass.
Uniquement en Ukraine. C'est-à-dire, vous voyez pas une bombe arriver à Londres
dans des capitales européennes. Je n'y crois pas à l'heure actuelle parce que ça déclencherait automatiquement un conflit contre l'OTAN et il perdrait ce conflit dans la mesure où il perdrait l'Inde et la Chine. Par contre, est-ce qu'il utilisera une bombe tactique en Ukraine pour faire peur au reste de la population et de l'opinion publique mondiale? Il ne faut pas l'exclure, notamment je pense à une zone spécifique, c'est celle entre Kiev et le Donbass pour empêcher les Ukrainiens d'avancer et de protéger le Donbass dans ce cas-là.
Pour compléter ce que vous dites, William Tay, puisque l'Assemblée des Nations Unies se poursuit, le ministre chinois des Affaires étrangères appelle aujourd'hui l'Ukraine et la Russie à ne pas laisser la guerre déborder. Voilà ce qu'il dit. Marie-Virginie Klein, vous vouliez compléter quelque chose sur ce sujet?
Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle déjà que l'Inde et la Chine se remettent un petit peu du côté du droit chemin, j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. Non, moi je dis juste, on a vu il y a deux jours Vladimir Poutine qui était blessé, blessé un Russe, ça peut être dangereux, donc moi je j'exclus absolument rien.
Alors on parlait de la Chine, effectivement, j'allais dire apaisé hein, sur ce sujet russo-ukrainien. Cependant, concernant Taïwan, c'est une autre musique, puisqu'à l'ONU, cette même Chine promet des actions déterminées pour empêcher toute interférence. Voilà.
Donc mais ça, la position chinoise est compliquée, parce que je crois que Xi Jinping est parti rendre visite à Vladimir Poutine, alors que Xi Jinping n'est pas sorti du territoire chinois depuis le début de la crise sanitaire qui est apparue fin 2019. Donc c'est quand même un signe quand même de soutien. La Chine est dans une position particulière, c'est-à-dire qu'elle doit soutenir son allié russe, notamment face aux États-Unis, dans le conflit entre la Chine et les États-Unis, mais dans le même temps, ils ont besoin de commercer pour rattraper leur retard par rapport aux États-Unis et vendre leurs produits et donc aux pays destinataires, donc c'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis.
Enfin, il fait la suite du sommet de Samarkand qui a été une humiliation pour Poutine. Enfin,
On est bien. Oui, bien sûr, mais Xi Jinping est dans une position qui est compliquée dans la mesure où il a besoin de capitaliser le plus de force en vue du Taïwan et en vue du conflit entre la Chine et les États-Unis pour passer premier pays mondial d'ici 2030. Ensuite, sur la question que vous posez, quelles vont être les suites du conflit, je pense que le sujet essentiel, c'est est-ce que Zelensky et l'Ukraine sont attachés au Donbass? Si par cas ils ne sont pas attachés au Donbass, je pense qu'on peut aboutir à un cessez-le-feu et à un accord de Minsk 3 qui peut être porté garant. Mais est-ce que les États-Unis et notamment von der Leyen et les institutions européennes, pour l'instant, sont plutôt contre ce type d'accord. Mais si on arrive à se débloquer de ce côté-là, on pourrait avoir une fin de conflit plus rapidement que prévu, dans la mesure où, alors qu'avant, chacun n'avait rien à perdre, là maintenant, les Ukrainiens et les Russes commencent à avoir beaucoup à perdre.
Oui, il y a une nouvelle donne là-dessus, on est bien d'accord.